trajectoire. Pour ce premier numéro, Salima Kettar nous propose une rencontre avec Sophie Lévy, directrice du musée d'art de Nantes. Deuxième partie, être conservatrice, un métier en sensibilité.
Bonjour Sophie Lévy.
Bonjour.
Dans un premier volet, on a parlé de votre découverte de l'art, de l'aiguisement, de votre regard. On va maintenant aborder votre métier de conservatrice et de l'évolution de votre lien à l'art et au monde de l'art. Suite à vos études et donc à l'obtention du concours de conservateur, vous avez donc été conservatrice au sein de diverses structures publiques et privées, ici en France, à Dijon notamment, où vous avez occupé votre premier poste de conservatrice avec les collections des 19e et 20e siècles. Puis en 2000, vous répondez à une annonce et intégrez le privé avec un poste de conservatrice au musée d'art américain de Giverny, donc qui est aujourd'hui le musée des impressionnistes, qui était alors géré par la Terra Foundation for American Art, dont vous deviendrez la directrice adjointe. D'abord, d'après vos différentes expériences, c'est quoi être conservatrice et comment est-ce que vous concevez ce métier ?
Alors, c'est l'un des métiers, à ma connaissance, qui est le plus varié. Ça, c'est une des choses que j'ai découvertes en le pratiquant et qui m'a convaincue absolument que j'étais au bon endroit. C'est qu'il y a une incroyable palette de choses que l'on peut faire en étant conservateur, qui va des choses les plus techniques, les choses les plus abstraites, les choses les plus pratiques. C'est complètement dingue. Dans les choses les plus abstraites, on peut parler de la conception d'une exposition qui se conçoit presque comme une dissertation. Hein. Il faut vraiment avoir une idée et la mener à bien. Et puis écrire un texte, hein, ça suppose une capacité d'élaboration abstraite. Dans les choses les plus pratiques, ben, ça m'est arrivé, vous savez, de faire un voyage de 7 ou 8 heures dans un camion entre deux camionneurs et de manger dans un restaurant routier où j'étais la seule femme. Ça m'est aussi arrivé de transporter des tableaux avec mes petites mains, etc., etc. Enfin, vraiment, voilà. Et dans les choses les plus techniques, ça vous arrive de discuter avec un architecte ou avec un technicien de ce qu'il faut faire pour que le bâtiment n'ait plus tel ou tel problème, telle fuite soit réglée, tel problème de climat. Par exemple, j'ai appris des termes et des notions dont j'avais pas la moindre idée, comme le point de rosée, hein, qui est le moment où la condensation se fait, hein, qu'il y a un lien entre l'humidité relative et la température. Donc voilà, ce qui est très bizarre, c'est qu'on peut aller dans des champs. Il peut y avoir aussi des dimensions politiques, mais politiques au sens noble. Bien sûr, plus vous approchez de la direction d'un musée, plus la question du politique devient importante. Il peut y avoir des questions de communication, hein, comment on s'adresse aux autres, comment on donne aux autres envie de venir. Enfin, voilà, je ne peux pas citer un champ finalement où on n'est pas peu ou prou, quelquefois, ses mains, on ne peut pas se tâter d'un champ. Presque tous les champs peuvent être finalement celui du conservateur. Donc c'est assez difficile de décrire ce métier si on devait le résumer. Mais ça serait enlever toutes sortes d'éléments de sa richesse. Si on devait le résumer, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui aide les autres à voir. Voilà, je pourrais résumer ça comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi dans ce métier. Je pense que maintenant, c'est clair. C'est-à-dire de partager cette joie de voir par les mots. Voilà, je pourrais résumer ça comme ça. Mais c'est encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, on n'a pas une minute d'ennui. Hein. C'est un métier complètement passionnant à cause de sa variété. Et puis, travailler avec des artistes, c'est pas rien non plus. Ce sont des personnes vraiment à part qui vous apprennent énormément de choses sur énormément de plans. Voilà, donc c'est... Non, c'est vraiment un métier de... Outre que c'est un métier de passion et de passionné, il y a vraiment une variété de une palette de compétences que l'on peut développer qui est incroyable. Alors, on finit par choisir presque par sa carrière le conservateur qu'on souhaite être. Si on souhaite être complètement du côté de l'intellectualité, ben on a peut-être intérêt à aller dans un très grand musée où il y a plein de services et on peut se spécialiser justement sur un champ et devenir l'expert mondial de tel ou tel artiste ou de tel ou tel champ de l'histoire de l'art. Si on est, voyez, enfin, etc. Si on adore le numérique, eh ben, on peut très bien être un conservateur qui aide à la médiation numérique. Enfin voilà, donc on peut construire aussi la carrière et le champ d'expertise qui vous correspond. Donc c'est absolument génial.
Comment justement est-ce que vous avez appréhendé ce poste, ce métier au sortir du concours? Comment est-ce que vous l'aviez appréhendé à la prise de votre premier poste, donc à Dijon, avec les collections des 19e et 20e siècles?
Comme je ne venais pas du champ, j'avais pas dans ma famille des professionnels des musées, donc c'était quand même un univers qui était assez loin de moi. J'ai fait exprès, dans la mesure de mes moyens, de rentrer dans une grande équipe parce que je voulais apprendre à leur contact, finalement, le métier. Tout en ayant eu quand même l'école du patrimoine, c'est à peu près 2 ans de cours, mais beaucoup de stages. Et donc, il y a une tentative très sincère de la part à l'époque, ça s'appelait l'École nationale du patrimoine. Maintenant, c'est l'Institut national du patrimoine. Peu importe. Il y a une volonté très sincère de vous apprendre votre métier. Mais bien entendu, on n'apprend jamais son métier 100% à l'école. Et donc, après, l'idée, c'était d'apprendre au contact de conservateurs expérimentés. Donc, c'était une équipe de 5 conservateurs. Et puis de faire des expositions. D'être confronté finalement à l'organisation d'expositions, aux acquisitions, à l'écriture d'articles, à des questions de conservation préventive, enfin bref, d'apprendre grâce aux autres finalement, hein, mais comme tout le monde, comme tout le monde. Et c'est un moment aussi où les artistes, par exemple, c'est les artistes qui m'ont appris à accrocher une exposition. Je savais pas du tout comment on faisait pour accrocher une exposition. Et or, c'est un peu le sein du sein de l'organisation de l'exposition. Il y a la conception qui est un moment très important et à la fin du processus, il y a l'accrochage qui est un moment décisif parce que c'est le moment où tout s'incarne.
En évoquant toujours cette période, les 19e et 20e siècles, donc l'ère moderne, pour laquelle donc, vous portez un intérêt, tout comme pour la culture américaine. Donc cet intérêt va s'exprimer lors de vos années, notamment à Giverny, forcément, à travers notamment des expositions telles celles consacrées à John Mitchell, que vous retrouverez par ailleurs plus tard, Sophie, avec l'exposition United States of Abstraction, donc, qui s'est tenue ici au musée de Nantes. On parlera donc dans un troisième temps du lien social que vous avez, que vous entretenez avec les artistes contemporains. À quel point, déjà dans un premier temps, les artistes en eux-mêmes nourrissent votre trajectoire personnelle et professionnelle? En quoi est-ce que ces personnes sont importantes pour vous à l'image de John Mitchell?
Alors, John Mitchell était décédé depuis longtemps quand j'ai organisé l'exposition qui lui était consacrée à Giverny. Hein. C'était en 2009. John Mitchell a dû mourir en 92 ou 93 par là. Donc, pour moi, il y a une très forte différence entre les œuvres d'art, quand l'artiste est décédé, les œuvres d'art, même si c'est une monographie, que vous parliez du Caravage de John Mitchell ou de Modigliani, pour reprendre cet exemple, l'artiste n'est plus là, son œuvre d'une certaine manière est clos, et ce qui compte, c'est ce que vous avez à en dire. Alors que, quand l'artiste est vivant, il vous accompagne pour son exposition, si c'est une rétrospective ou si c'est une exposition personnelle, il est là. C'est toujours important pour un artiste d'avoir une exposition dans un musée, il est là. Alors avec, là aussi, toute une palette d'investissements, mais il est là. et son œuvre est inachevée. Donc, l'exposition elle-même est un élément de son œuvre. Et donc, c'est une manière de travailler qui est radicalement différente. Vous êtes un accoucheur, vous êtes un accompagnateur, vous êtes là pour lui. Et vous êtes aussi le garant que ce qu'il propose va être compréhensible, lisible par le public. Mais votre première mission, c'est de l'aider à accomplir son œuvre, presque comme un assistant. C'est complètement différent. Voilà, donc c'était important, je pense, que je distingue ça, parce que d'une certaine manière, Joan Mitchell, je peux rêver de la femme qu'elle était. J'ai écouté des interviews, j'ai lu des interviews. Donc j'ai une certaine idée de la femme qu'elle était, mais je n'ai évidemment pas accès à la femme qu'elle était. Et donc l'exposition, elle a été faite à partir de ses œuvres. Et bizarrement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce n'est pas la même exposition. Dans un cas, vous participez à quelque chose qui se crée et vous vous mettez complètement au service d'un être vivant qui a son projet. Dans l'autre cas, vous concevez une exposition à partir d'œuvres. Voilà, c'est important à mes yeux de l'exprimer. Ce n'est pas le même travail.
Oui, justement, alors j'ai peut-être mal formulé ma question. En fait, ma question partait de cette idée de vous, en tant que passionnée d'art et conservatrice, quel lien est-ce que vous aviez avec les artistes, morts ou pas, mais en l'occurrence, Joan Mitchell qui est décédé. Mais en quoi est-ce qu'ils marquent, au-delà de leur œuvre, en quoi est-ce qu'il marque votre trajectoire à vous ?
Eh bien, pas.
Si c'est des personnages qui...
Non.
Qui vont...
En fait, à partir du moment où ils sont décédés, le lien que j'ai, c'est avec leur œuvre et pas avec leur personne. Parfois, il y a des trajectoires... Voilà, j'ai été très sensible en lisant les biographies sur Joan Mitchell, à sa mélancolie, à la tragédie de sa vie. Mais ce n'est pas le sujet. Ça n'est que secondairement le sujet, et je suis pas du tout midinette ou fan, même avec les artistes vivants d'ailleurs. C'est pas du tout. Je n'ai pas de fascination pour le personnage de l'artiste. J'ai du respect. Et donc voilà, quand il est vivant, je souhaite profondément respecter son désir, sa fragilité, son besoin de construire une œuvre. Je trouve ça incroyablement courageux et difficile d'être artiste. Je leur fais beaucoup confiance. En général, ils savent très bien où ils vont et ils savent beaucoup mieux que vous où ils vont. Et d'ailleurs, c'est les seuls à savoir où ils vont. Et ça, c'est tous les conservateurs d'art contemporain avec lesquels j'ai collaboré, parce que ce n'est pas ma formation initiale, vous disent ça. Ils se mettent au service des artistes. Ce n'est pas leur personne qui me guide ou qui sont à la source de la vocation, c'est vraiment leurs œuvres. Et c'est très différent, mine de rien. Ce n'est pas du tout la même chose. Une œuvre, elle a une existence. Quand je disais « vous cherchez votre ami », c'est parce que les œuvres d'art ont une existence vivante qui dépasse assez largement l'existence de son auteur. Et en tout cas, qui ne se confond pas avec l'existence de son auteur. On peut être un sale type et un artiste incroyable en termes d'œuvre. On peut être un artiste merveilleux, d'une humanité extraordinaire, d'une intelligence et d'une finesse extraordinaire, et que vos œuvres ne passent pas la barrière le mur du son, comme je dis souvent, ou ne tiennent pas le mur. C'est bizarrement, c'est curieux, je ne sais pas l'expliquer, mais ce sont deux choses complètement différentes. Et mon sujet, c'est vraiment l'œuvre.
Somewhere where they come for.
Alors, revenons à ce moment de votre carrière, quand vous partez de la Terra Foundation. Cela fait 15 ans que vous êtes dans la profession, on va dire. Et quel nouveau lien tissez-vous avec le monde des arts? Qu'est-ce que vous en avez appris?
Qu'est-ce que j'ai appris au monde du monde de l'art? Donc, j'ai parlé du fait que c'était un monde assez rude, où on prenait des coups. Et quelqu'un un jour m'a demandé si ça ne m'avait pas découragée. Bizarrement, pas du tout. C'était une donnée. Et j'ai aussi, je crois, compris que... voilà, que c'est intimidé. Je suis parfois intimidée dans le monde de l'art. Intimidée... par justement ces postures et ce savoir, ça m'a longtemps, je crois, intimidée. Et je me suis sentie très longtemps illégitime à y figurer. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que beaucoup de gens ressentent ça, ce sentiment de profonde illégitimité, c'est un sentiment très désagréable, mais qui est très partagé. Le mauvais côté de ça, c'est que ça m'a empêché d'être plus alignée parfois à cause de cette intimidation. Le bon côté, c'est que j'ai toujours eu une espèce de connexion avec les visiteurs et les spectateurs, puisque voilà, ils étaient dans le même état que moi. Ils venaient d'ailleurs et ils essayaient d'entrer en contact avec une matière. Et ils n'avaient pas envie qu'on l'éloigne d'eux par des postures, du verbiage, etc. Mais le monde de l'art, finalement, j'y ai fait marre. Je pense que tous les milieux sont parfois difficiles. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que ce qui est difficile dans le monde de l'art, c'est qu'on ne sait jamais si ce qu'on a fait est bien. Et on a peut-être ça en commun avec les artistes, d'une certaine manière, c'est qu'on ne sait pas, rien ne valide ce que l'on a fait. Ni le succès public, ni le succès critique, ni même la satisfaction qu'on peut avoir personnellement sur un travail fourni. Rien n'est véritablement une preuve que ce que vous avez fait a de la valeur. Parce que ce n'est pas un élément marchand, c'est un élément complètement immatériel. Et voilà. Et donc... cette incertitude sur la valeur de ce que nous produisons a tendance parfois chez les gens du milieu de l'art à les rendre un peu cruels, parce que d'une certaine manière ils se disent que s'ils disent que le travail de l'autre n'est pas bien, peut-être que ça valorisera le leur. Et donc je suis consciente de leur fragilité aussi à eux maintenant. Voilà, mais j'essaye d'éviter les mêmes écueils. Les écueils du mépris dont on a parlé tout à l'heure. Mais bon, le monde de l'art, on peut aussi, d'une certaine manière, y travailler sans en être. C'est un peu, je crois, cette crête sur laquelle j'essaie de marcher. Je me souviens d'avoir entendu un jour Vincent Lindon expliquer que dans sa carrière, parce que je crois qu'il est un petit peu sujet à la timidité aussi, il racontait qu'il jouait à 1, 2, 3 soleils. C'est-à-dire que quand les gens ne le regardaient pas, il avançait. Et puis que dès qu'il les regardait, il s'immobilisait. Ça m'avait beaucoup parlé parce que, d'une certaine manière, quand on ne se sent pas complètement légitime, c'est une bonne stratégie, finalement. On avance quand même, mais en toute discrétion.
Mais vous pouvez aussi vous sentir détonné dans ce milieu. Comment est-ce que vous en faites une force, justement ?
Ça reste complètement inconscient. Quand on est dans la peau de quelqu'un qui est outsider, pendant un moment on souffre tout simplement, et en effet à un moment on se dit, et puis zut, je suis comme je suis, et puis voilà, c'est pas grave. Est-ce que c'est une force? Non, ce qui est une force, c'est d'avoir plusieurs formations, plusieurs feuilles dans mon millefeuille, d'avoir eu cette formation de management, cette formation d'école de commerce, cette variété finalement d'univers, ça c'est une force qui fait que je peux changer d'univers très facilement, je comprends beaucoup de choses. Mon monde est un peu plus large que le monde de conservateurs qui n'ont jamais quitté la filière de l'histoire de l'art. Je sais lire un budget, ça m'est arrivé de faire des intérims d'administration de musée. je sais à peu près faire. Donc c'est plutôt ça, c'est une espèce de solidité de compétences et de variété de compétences que je peux utiliser, sur lesquelles je peux puiser assez librement. Je dirais plutôt que c'est ça, en fait. Mais de plus en plus, les parcours sont variés, sont complexes. Donc finalement, je ne suis pas tellement une exception. Je pense qu'il y a de plus en plus de parcours variés, complexes et avec des apparentes contradictions qui finissent par se réunir. C'est devenu, je pense, un peu la norme. Donc je détonne beaucoup moins.
Vous parliez de Merleau-Ponty en première partie. Est-ce que vous avez également envie de vous rendre visible à l'autre sur votre terrain, c'est-à-dire le monde de l'art ?
C'est une très bonne question et pas vraiment. Ça peut paraître bizarre parce que je suis là de faire que parler de moi depuis que vous m'interrogez, mais non, c'est pas vraiment mon objectif, à vrai dire. Plutôt, vous voyez, les 1, 2, 3 soleils, ça s'applique bien là. C'est que je voudrais faire des choses. Le temps qui passe m'interroge. Ça fait maintenant un certain temps que je suis dans le milieu de l'art. Et voilà, j'ai 54 ans, donc j'ai peut-être, je sais pas, 11, 12, 13 ans encore devant moi. C'est très, très peu. C'est très, très court, une vie professionnelle. Et ce qui m'anime, c'est le temps qui reste pour les choses que je voudrais faire. Le temps est tellement court, je voudrais faire tellement de choses, je voudrais voir tellement de choses différentes. Et voilà, je suis un peu travaillée par le manque, comme ça, cette idée qu'il y a tellement de choses encore à découvrir. Et plutôt que de me faire voir moi, en fait, là, si je pouvais disparaître, si je pouvais faire beaucoup de choses tout en étant totalement invisible, ça m'irait très très bien.
Comment a évolué votre rapport du sensible par rapport à l'art ? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez jamais craint qu'il soit floué par, justement, l'exigence professionnelle ? On peut tout à fait imaginer que votre posture aujourd'hui de spectatrice d'œuvre peut connaître des variantes de par votre statut dans l'institution muséale. Donc, de fait, comment concevez-vous cela ? Comment est-ce que vous gérez cette sorte de numéro d'équilibriste pour être en phase avec votre statut professionnel et votre sensibilité de spectatrice, celle que vous êtes?
Oui, alors ça a été... Alors, la première étape, c'est bien sûr, on perd quelque chose quand on devient un professionnel de l'art. Il m'arrivait, dans certains musées ou devant certaines œuvres, de me mettre à trembler tellement c'était beau, tellement c'était émouvant. Les impressions étaient très fortes. Très violente. Et bien sûr, quand on travaille dans le milieu de l'art, on aime beaucoup plus de choses. La palette de ce que l'on aime et de ce que l'on apprend à apprécier est beaucoup plus large. Mais l'intensité de l'expérience de l'art a peut-être tendance parfois à s'émousser un peu. Parce qu'en effet, comme vous le disiez justement, le filtre, et comme je le disais quand je parlais de la visite d'une exposition, le filtre professionnel vient gêner le regard au lieu de l'aiguiser. Il l'aiguise et tout à la fois, il l'affadit. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant, mais on s'en rend compte très très vite. Hein. C'est comme un médecin. Le médecin ne rencontre pas le corps de l'autre comme s'il rencontrait un corps dans son... Voilà. Et après, comme tout professionnel, parce que ça, c'est complètement universel, il y a deux mois en moi, et c'est encore plus vrai quand on devient directeur. Il y a deux mois en moi. Et il y a la directrice qui est en fait un costume que j'endosse le matin et dont je me débarrasse le soir. Parce que personne ne veut vraiment travailler avec Sophie Lévy, la vraie Sophie Lévy, tout le monde s'en fout, et ce que je comprends très bien, c'est mon personnage public que vous interrogez maintenant, Enfin, quoique là, on est un peu entre les deux. Hein. mais c'est mon personnage public qui s'adresse aux visiteurs lors de discours. C'est mon personnage public aussi qui manage une équipe. Personne ne veut rencontrer l'individu Sophie Lévy dans sa profession. Et c'est normal. Mais dans tous les métiers, c'est comme ça. Et puis, très loin derrière, et ça, c'est une des forces, je trouve, des femmes dans le travail, c'est de ne pas confondre leur moi véritable avec leur moi social, parce que sinon, ça fait des dégâts absolument terribles. Derrière, voilà, toujours 10 cm derrière, parfois même encore un peu plus loin, bon, il y a quelqu'un de sensibilité, de voilà. Et c'est pas la même personne, mais de temps en temps, il y en a une qui vient vers le devant, et de temps en temps, c'est l'autre qui vient vers le devant. Et c'est absolument pas un problème, je jongle avec ça facilement, de la même manière que parfois, je sens très bien, mais comme n'importe quelle personne un peu publique, parfois quelqu'un s'adresse à moi et je vois qu'il ne parle qu'à la directrice de musée, et je lui réponds avec le personnage, et quelquefois je vois que non, on essaye d'accéder à l'individu, et je peux accéder ou pas à, voilà. Et c'est un jeu que tout le monde pratique, alors qu'on n'admet pas souvent, mais qui est un jeu très important pour ne pas confondre les deux. Pourquoi ne faut-il pas les confondre? Parce que sinon vous pouvez devenir mégalo, enfin pas moi, mais tout personnage public important, une rockstar, un homme politique peut devenir complètement mégalo. Et aussi, quand il perd ce rôle, parce que ça peut toujours arriver, il peut devenir fou ou de très malade parce qu'il croit que son vrai moi a été tué quand le rôle a été tué. Ben, ça risque pas de m'arriver. Et ça, c'est une des grandes forces des femmes, je dois dire. Pour l'instant, dans le monde professionnel, c'est cet écart, elle le gère mieux.
Ça mériterait
oui.
qu'on en cause encore et encore, en tout cas dans le détail. Sophie, y a-t-il eu des rencontres décisives qui ont marqué votre parcours, qui vous ont influencé? Vous êtes allée là, vous avez pris telle décision parce que cette rencontre.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait... c'est des gens qui vous... Oui, qui souvent, des gens qui ne sont pas des proches. Ça, c'est très important. Les proches, leur métier, c'est d'être proche. Mais les gens qui vous aident... Alors, ça peut être des lectures, hein, on en a déjà parlé. Mmh. Ça peut être des personnages de romans, figurez-vous. Hein. Isabelle Archer, l'héroïne de Portrait of a Lady de Henry James... m'a beaucoup accompagnée, mais aussi des hommes, hein, le hussard sur le toit, hein, Angelo Pardi, voilà, c'est un modèle pour moi, le courage, son courage, son côté ténébreux, voilà, il m'a beaucoup aidée, mais il y a aussi bien sûr des gens réels. Je pense à ce professeur de philosophie de prépa qui était d'une dureté, d'une exigence, d'une intelligence et voilà, qui m'a donné accès à la philosophie de l'art. Je pense à une graphologue qui travaillait avec mon père, qui était une sorcière, une véritable sorcière, et qui a lu dans mon écriture beaucoup de choses qui m'a aidée à justement affirmer mon parcours. Je pense à Lise Glassman, qui était la présidente de la Fondation Terra. Beaucoup de femmes m'ont aussi fait la courte échelle, et j'essaye de faire pareil pour d'autres femmes. Parce que c'est aussi ça, en fait, un féminisme en action, c'est d'être la personne qui ouvre la voie pour d'autres femmes. Et bon, de fait, dans mon histoire, c'est beaucoup des femmes qui m'ont tendu la main et qui m'ont permis d'accéder là où je suis. Tous ces gens, j'y pense souvent, ils m'ont aidée, je leur suis très reconnaissante.
Est-ce que c'est un sujet, en quelque sorte, le fait d'être une femme dans le monde de l'art?
Ah, c'est toujours un sujet. C'est toujours un sujet dans tous les domaines et dans tous les milieux. Et on croit souvent que le milieu de l'art est un milieu plus ouvert à la question des
justement,
genres.
Justement, c'est pour ça, oui.
À la question de la liberté, à la question, voilà, des franges, des sphères sociales. Hein. Et bon, j'ai déjà essayé d'expliquer que c'est pas si vrai que ça. Et non, c'est toujours un sujet. Et puis, c'est un sujet aussi d'être une femme en position d'autorité. Non, c'est toujours un sujet. Et puis, dans le monde artistique, les femmes, il y a un travail colossal à faire pour faire émerger les femmes dans l'artiste, les femmes artistes. Non, c'est un énorme dossier. Et alors, c'est drôle parce que, voilà, je crois que j'étais une féministe sans vraiment le savoir. Et ça m'a beaucoup été reproché dans toute ma carrière et dans toute ma vie. Cette espèce de... Si je voulais être positive, je dirais cette force, mais on m'a souvent reproché d'être très agressive et d'être... de ne pas être assez féminine, etc. De faire peur, etc. Et donc, j'ai aussi mis du temps à rassembler toutes ces facettes de l'identité entre la femme intellectuelle, la femme-femme, la femme d'autorité, la manageuse d'équipe, qui voilà, c'est pas si simple. Et puis, voilà, je suis dans une espèce de génération intermédiaire, entre les militantes, on va dire, et puis l'époque actuelle, qui est encore d'un autre ordre. Et je dirais quand c'est à Giverny, j'avais une trentaine d'années, et j'ai commencé à prendre des responsabilités. Ça a vraiment été le tournant de cette question de c'est quoi être une femme, en position d'autorité. Ça m'a énormément questionnée à l'époque. Bon, maintenant, tout ça est bien résolu, mais non, ça reste un vrai sujet et je voudrais... J'y pense très souvent, en fait, quand je choisis... quand on décide de la programmation, quand on interviewe des gens professionnellement, quand je parle à des jeunes, c'est un sujet de préoccupation et d'intérêt pour moi, oui.
Le militantisme intègre votre métier, votre statut de directrice de musée ?
Alors, pas du tout. Bizarrement, j'ai un problème avec le militantisme. Je ne suis pas douée pour le militantisme, dans le sens où je n'arrive pas à m'engager dans un mouvement. Je préfère faire, si possible. Je n'arrive pas à prendre une carte ou je préfère faire.
En fait, par militantisme, j'entendais également dans vos choix. En fait, c'est pas...
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais c'est assez récent, d'une certaine manière. Avant, je pense que j'essayais surtout de... Voilà, de ne pas y penser, de ne pas penser qu'être une femme pouvait être un frein. Maintenant, j'essaye d'en prendre conscience et d'y travailler. Et puis voilà, les générations, voilà, je suis entourée par des gens plus jeunes que moi qui m'aident aussi à cette prise de conscience.
Pour conclure ce deuxième épisode, Sophie, de votre trajectoire, quelle est l'exposition qui vous ressemble le plus, celle qui marque de la manière la plus sensible votre parcours, l'exposition que vous avez organisée, j'entends?
Oui. Alors, c'est rigolo parce que d'habitude, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions. Mais là, pendant que vous posiez la question, il y en a une qui a surgi assez naturellement, qui était l'exposition que j'ai co-organisée parce que j'ai plus le temps d'être commissaire seule d'une exposition. En 2012, à Villeneuve-d'Ascq, au LAM, ça s'appelait La Ville Magique. Et je ne sais pas bien expliquer pourquoi. C'est une exposition qui traitait justement de ce moment de l'entre-deux-guerres où plus la ville devenait moderne, mécanique, froide et concentrait finalement beaucoup des énergies d'un pays, plus elle devenait verticale d'une certaine manière, plus elle devenait étrange. Et plus elle était finalement un berceau naturel du surréalisme. Et cette exposition, j'ai l'impression d'avoir réussi à placer un certain nombre de choses de manière juste. Enfin, je ne sais pas, j'aime beaucoup cette exposition et je la trouve assez réussie. voilà, c'est celle qui me vient naturellement. Je me suis même demandé pourquoi j'étais si souvent attirée par l'entre-deux-guerres. Parce que de fait, J'ai organisé beaucoup d'expositions qui se situent sur l'entre-deux-guerres. J'ai trouvé une réponse, enfin, qui vaut ce qu'elle vaut. Mon père est né en 1922, donc en Algérie, je l'ai dit. Il est juif. Ma mère est née en 1927, donc dans un milieu catholique bourgeois du Nord. Et c'était une période très troublée. Voilà, c'est pas la peine de vous raconter ce que tout le monde connaît bien. Ils s'en sont sortis tous les deux, ils se sont rencontrés. Ils sont un produit assez typique du XXe siècle dans ce qu'il a d'effrayant et d'exaltant. Et je pense que c'est ça qui me fascine, hein, c'est ce point de naissance auquel évidemment on n'a pas accès en tant qu'enfant.
C'était Trajectoire avec Sophie Lévy. Deuxième partie, être conservatrice, un métier en sensibilité. Une émission qui se réécoute et se podcast sur alternantefm.net.